Bonjour, c'est l'atelier des médias.
Bonjour, je m'appelle Jerry Tama, je suis togolais, j'ai 34 ans. Actuellement, je dirige une petite agence de communication qui s'appelle Agence Mofi. J'ai un blog de règles d'Afrique que j'ai commencé à entretenir depuis 2007, février 2007. Je consulte beaucoup Internet. Et puis tout récemment, j'ai un roman qui va sortir de l'édition L'Armatan très bientôt. Donc tout récemment, je faisais des recherches pour voir les auteurs africains aussi qui étaient jeunes auteurs. Je suis tombé directement avec un lien sur la télé des médias. Et puis bon, j'ai trouvé le concept très intéressant. Je me suis inscrit et puis voilà. Depuis quelques instants, je suis un membre de l'atelier des médias.
Merci Jerry. Et puis votre message a été entendu par les 2900 membres de l'atelier des médias et puis par tous ceux qui nous écoutent également.
Merci beaucoup et félicitations pour tout ce que vous faites. C'est vraiment génial.
L'atelier des médias. La web émission participative.
RFI.
Philippe Couve. Simon de Creuse.
Et vous.
Bonjour et bienvenue dans l'atelier des médias nouvelle version. Chaque samedi, nous sommes ensemble pendant une heure et demie.
Atelier@rfi.fr.
Yafoy, les médias se mettent à parler nouchi à Abidjan. Comment l'argot de la rue se faufile-t-il jusqu'à la radio et la télé? Reportage de Norbert Navarro à suivre dans 25 minutes. Rendez-vous ensuite avec les observateurs de France 24. Regard croisé entre un banquier londonien et un professeur italien sur le sommet du G20. Débat à écouter dans 3 quarts d'heure. Comment bloguer lorsqu'on est en Afrique? Les réponses des membres de l'atelier des médias, ce sera dans Mondoblog dans une heure avec Cédric Kalonji. Et puis, il ne passe pas une semaine sans que l'on annonce la disparition d'un journal aux États-Unis. Le docteur Pisani, Francis Pisani, nous dira si c'est une maladie mortelle qui touche la presse papier chronique à écouter dans 1 heure et quart. Dans l'atelier des médias, on parle des médias que vous consultez, de ce que vous fabriquez. L'atelier des médias, c'est une conversation à laquelle vous pouvez participer en nous rejoignant sur le web.
http://atelier.rfi.fr.
La première partie de l'atelier des médias, c'est tout de suite évolution, révolution des médias. Dans 5 minutes, nous parlerons des pommes. Pommes, P-O-M, pour petites œuvres multimédia ou comment les photographes inventent de nouvelles manières de montrer leurs images sur le web. Mais avant cela, on commence avec deux faire-part de naissance dans la presse écrite africaine. Deux journaux qui voient le jour, deux magazines qui s'intéressent aux questions culturelles. L'un s'appelle Baobab Monde et l'autre se nomme Cahier d'Afrique. Tous les deux sont sortis à l'occasion du dernier FESPACO, le rendez-vous du cinéma africain de Ouagadougou. Sophie Torlotin a rencontré Alassane Cissé, cofondateur du trimestriel Baobab Monde.
C'est des articles fouillés, des reportages anthropologiques, des interviews exclusives, des documentaires, des portraits, entre autres. Donc ce format magazine peut servir également de regard critique et sans complaisance par rapport aux événements culturels du monde, par rapport aux productions artistiques et littéraires. Et Baobab Monde aussi est un instrument fédérateur entre les journalistes culturels du monde et surtout ceux d'Afrique, et également une tribune qui permet de mettre en lumière la culture du monde dans un contexte de crise financière, dans un contexte également de mondialisation, pour permettre aux identités culturelles de s'exprimer, mais pas des identités meurtrières, comme dit Amin Malouf. Baobab Monde, dont la devise est « la culture humanise le monde », peut servir de levier de fraternisation des peuples. Maintenant, Baobab Monde, c'est à l'initiative des journalistes culturels d'Afrique. Donc, c'est sur fond propre et que ce magazine est tiré à 30 000 exemplaires, distribué à Kigali, à Dakar, à Bamako, à Ouagadougou et dans d'autres pays d'Afrique, en Espagne aussi, en France et dans d'autres pays. Et ce qu'on veut également, c'est de faire de Baobab Monde comme magazine un instrument d'échange culturel, un instrument qui fédère les acteurs culturels, les opérateurs culturels, les artistes et autres partenaires au développement culturel. Et dans Baobab Monde aussi, il y a la Commission de l'Union européenne qui annonce qu'il y a 1,6 milliard d'aides chaque année au cinéma européen. L'aide publique au cinéma européen. Et ça me semble extrêmement important. Et c'est pour montrer que les États africains aussi doivent accompagner, subventionner le cinéma africain. Parce que le cinéma aussi est le gardien de notre mémoire, valorise notre patrimoine Et donc ça me semble extrêmement important. Donc voilà Baobab Monde.
Alassane Cissé pour le magazine Baobab Monde. L'autre magazine qui se lance sur le créneau de l'information culturelle africaine, c'est Cahiers d'Afrique. Sophie Torlotin a interrogé son rédacteur en chef, Modou Mamoun Faye, à Ouagadougou.
En Afrique, il y a beaucoup de journaux, il y a beaucoup de revues, mais souvent, c'est des revues qui ont des thématiques très politiques, parfois sportives. Mais la culture est très souvent mise en rade dans nos habitudes de lecture. Bien sûr, il y a des pages culture dans presque tous les journaux, mais à la limite, il n'y a pas assez d'espace pour l'expression culturelle. Donc nous nous sommes dit qu'il y a une place pour une revue panafricaine des arts et de la culture. Et quand le cinéaste sénégalais Mahama Johnson Traoré, qui est très connu dans le monde du cinéma, m'a proposé de piloter cette revue, j'ai tout de suite accepté parce que c'est une autre forme d'expression pour moi. C'est vrai que je suis journaliste culturel depuis une vingtaine d'années, mais cela me permet d'embrasser beaucoup plus de thématiques. Parce que là, à chaque numéro, il y aura un cahier central qui va traiter d'un sujet. Ça peut être la littérature, ça peut être le cinéma, ça peut être la musique. Ça peut être les arts visuels. Donc, en fait, c'est ça qui a conduit à la naissance de cette revue, dont le premier numéro sort à l'occasion des 40 ans du FESPACO. Et nous avons fait, c'est une revue de 80 pages, dont la moitié, une quarantaine de pages, sont consacrées au cinéma. Pour le moment, nous voulons en faire un numéro tous les deux mois, donc un bimensuel. Mais si vraiment les moyens suivent, ce sera un mensuel, comme c'est bien indiqué sur la couverture, un mensuel des cultures africaines.
Oui, parce que jusqu'à présent, il n'existait pas de revue culturelle.
Il y avait des revues, mais ce que nous avons constaté, c'est que souvent, c'est des revues qui sont faites entièrement à partir de l'Occident. Et nous, nous voulons jeter un regard vraiment africain sur la culture, sur nos cultures.
Modou Mamoun Faye, rédacteur en chef du bimensuel Cahiers d'Afrique, interrogé par Sophie Torlotin. Deux interviews à retrouver en version intégrale sur le site de l'Atelier des médias. On regrettera simplement que les deux magazines n'aient pas encore de réelle présence sur le web.
L'Atelier des médias, une web émission participative pour la communauté des nouveaux médias.
Dans l'actu média de la semaine, plusieurs infos ont retenu mon attention. En France, la loi Création et Internet a été adoptée par les députés. Cette loi prévoit notamment la possibilité de couper l'accès Internet de ceux qui procèdent à des téléchargements d'œuvres piratées, musique ou films par exemple. Reste une dernière étape maintenant pour cette loi, étape parlementaire, avant l'adoption définitive du texte. Des journalistes convoqués par la police en France, deux journalistes de Rue 89 et deux journalistes de France 3 ont été entendus cette semaine après la diffusion par le site d'info Rue 89 d'images montrant Nicolas Sarkozy quelques minutes avant une interview télévisée. Les journalistes ont plaidé le droit d'informer et rejeté les accusations de vol d'images. Le New York Times va baisser les salaires de ses employés, une baisse de 5% pendant 9 mois en raison de la mauvaise situation financière de ce journal phare de la presse américaine. Autre grand quotidien américain, le Washington Post, qui lance lui un nouveau plan de départ volontaire pour réduire ses effectifs. Et puis, changement à la tête de Radio France, Jean-Paul Cluzel, ancien PDG de RFI et actuel PDG de Radio France, ne voit pas son mandat renouvelé. C'est le journaliste Jean-Luc Hess qui a été choisi par Nicolas Sarkozy pour présider désormais le groupe de radio publique. Des liens complémentaires pour toutes ces infos sur le site de l'Atelier des médias, émission numéro 76.
Cela ne s'est pas fait tout de suite. Il m'a fallu du temps pour apprivoiser cet espace-là, l'espace d'une image. Un peu par hasard, un peu par jeu au début, puis c'est devenu une habitude. Il faut sentir les choses, le bon moment, à chaque fois. Les gens disent rarement non. À un feu rouge, au moment de payer ou lorsqu'ils viennent de monter, ils acceptent. Les gens disent rarement non, mais pas oui non plus, jamais clairement. Cela se joue dans un regard, dans un instant un peu suspendu où la confiance passe.
Bonjour Wilfried Estève.
Bonjour.
Ce qu'on vient d'entendre, c'est la bande sonore d'un POM, une petite œuvre multimédia. C'est quoi un POM ?
Alors un POM, c'est un module d'information que l'on a créé à l'occasion du projet Territoire de Fiction en 2005 sur une réflexion de la place de l'image sur le web.
Et alors ? Pour essayer de décrire les choses, c'est une sorte de diaporama, on voit des images défiler et une bande sonore qui vient compléter ces images.
Pour être un petit peu plus précis, lorsqu'en 2005 on s'est demandé comment on aurait aimé investir le web en tant qu'auteur, On a vu, il y avait un constat, on voyait de l'image fixe, des photos, on voyait des diaporamas qui étaient un petit peu pauvres en niveau de création, en niveau d'information aussi. Donc on a décidé de partir sur un module qui est proche de la réalisation, c'est-à-dire qu'on est sur sur un principe de montage, de réalisation, de création sonore d'œuvres originales, c'est-à-dire qu'on ne va pas reprendre une bande-son, on ne va pas avoir une lecture linéaire d'un travail photographique, mais on va avoir vraiment un scénario qui va répondre à des principes de création, d'information. Et sur un module, nous, on a défini un format, on doit raconter l'histoire en 2 minutes 30, 3 minutes au maximum.
Alors, Wilfried Restef, vous êtes photographe, vous êtes également à l'origine du collectif, de plusieurs collectifs de photographes, oui. Dont freelance, de différents projets et entreprises. Est-ce que c'est parce que les photographes avaient de plus en plus de mal, je dirais, à vendre leurs photos aux médias traditionnels, que vous avez cherché aussi d'autres modes d'expression, d'autres modes pour montrer vos images ?
Je vais juste un petit peu revenir sur mon parcours. Depuis 94, je suis photographe pour les médias, alors avec une spécialisation sur le grand reportage. J'ai créé L'Œil Public, j'ai initié la coopérative Picture Tank, et là je suis actuellement à l'agence Myope. Alors en tant qu'utilisateur photographe, j'ai vu bien sûr l'utilisation de la photographie pas mal évoluer, se restreindre parfois, des productions aussi qui se restreignaient, et puis avec une envie d'aller...
Ça veut dire qu'on vous achète plus vos photos, quoi, c'est ça, pour la faire courte.
Pour la faire courte, en fait, les modes de diffusion aujourd'hui ont pas mal évolué. On achète toujours de l'image, mais différemment, et puis aussi il y a la concurrence.
Vos confrères souvent se plaignent en disant aujourd'hui on est prêt à nous acheter des photos people, des photos montrant des personnalités. En revanche, des reportages plus en profondeur, plus en longueur, sur l'actualité sociale, sur l'information à l'étranger. Oui. Ça a beaucoup plus de difficultés à trouver sa place dans les médias d'aujourd'hui.
Bon, on va dire que le modèle qui vient des États-Unis ou d'Angleterre, des tabloïds, a pas mal un petit peu bousculé le rubriquage des journaux, qui un petit peu a réduit la place du grand reportage. Ça c'est sûr, quoi.
Alors, je vous propose d'écouter un extrait sonore, parce qu'il faut dire que les bandes-sons de ces pommes, ces petites œuvres multimédia, ces bandes-sons sont très léchées et elles sont en stéréo. Donc, un autre pomme qui propose un reportage sur les immigrants qui tentent de passer en Angleterre à partir de la ville française de Calais.
Je m'appelle Sadek, Zarmina, Mohamed, Zainab. Je suis afghan, irakien, iranien, pakistanais, somalien. 4 ans après la fermeture du camp de la Croix-Rouge de Saint-Gat, moi et des centaines d'autres continuons à affluer à Calais pour passer en Angleterre, car c'est le port le plus proche des côtes anglaises. Calais-Dijon, Dijon-Calais, Calais-Rouen, Rouen-Calais, Calais-Troyes, Trois-Calais, Calais-Amiens, Amiens-Calais, Calais-Le Havre, Le Havre-Calais, Calais-Metz, Metz-Calais, Amiens-Calais.
Wilfried Restef, est-ce que ça change le travail du photographe sur le terrain, le fait de travailler pour ces diaporamas sonores comme celui dont on vient d'entendre la bande-son?
Alors, il faut savoir que les scénarios des pommes sont multiples, et c'est vrai que sur un pomme, on a tendance à pouvoir consommer plus d'images que sur une publication, ça c'est sûr, et que pour le coup, on peut travailler sur des séries, on peut décomposer des choses. On va pas dire qu'on produit de l'image plus particulièrement sur pour un pomme, mais on va visiter un editing complètement différemment que sur du print, en fait, pour du print.
Les bandes sonores, elles sont faites par les photographes eux-mêmes ?
Non, alors les bandes sonores sont faites par des professionnels du son, en fait. Alors c'est soit des journalistes parfois radio, soit c'est des créateurs sonores qui enrobent et qui amènent beaucoup de pertinence au son. Pour ma part, je me suis très très longtemps lamenté des bandes sonores des diaporamas classiques qui reprenaient des chansons, des choses comme ça, et je trouvais que c'était un petit peu dommage de passer à côté de toute la notion d'information que va nous amener justement un journaliste qui soit radio ou un créateur sonore qui aussi a l'info à faire passer, quoi.
Mais ça veut dire que sur le terrain, il y a deux personnes, il y a un photographe et un journaliste pour l'aspect sonore?
De préférence, oui. Ouais.
Mais ça veut dire que ça coûte cher à mettre en œuvre après ce genre de choses?
Oui, c'est des coûts de production qui déterminent un nombre minimum de postes, dont celui d'une personne qui fait du son.
Et qui aujourd'hui achète ces productions, qui les diffuse?
Alors, je parle de, il y a deux choses, il y a la production et la diffusion. Alors, en termes de production, qui produit des pommes aujourd'hui, c'est un petit peu tout le monde.
Alors, les pommes, on rappelle, hein, c'est les petites, oui, les petites œuvres multimédia.
Alors, les pommes, bon, j'ai monté mon studio de création qui s'appelle Hans Lucas depuis 2 ans. On travaille pour des ONG. On travaille pour des entreprises, pour des institutions publiques qui financent clairement la production de pommes.
Ça coûte cher à fabriquer?
Tout dépend. Déjà, il y a l'aspect production qui peut un petit peu prendre de la place dans le budget de l'opération. Mais après, il y a selon le degré de création qu'on va amener sur le module, oui, parce que ça détermine des coûts qui sont attenants à des journées de réalisateurs, de créateurs sonores qui vont bosser de plus en plus sur le module, quoi.
Alors, les pommes, c'est du reportage sur le terrain. Un autre exemple avec Le Cœur Net, reportage auprès de ceux et celles qui fréquentent les sites de rencontres en ligne.
C'est qu'à toute heure du jour et de la nuit, on peut communiquer avec n'importe qui dans le monde. Je suis de chez moi, je prends zéro risque, ça me coûte rien. Le système de la fiche où tout est inscrit dessus, on se dit, à la limite, c'est le supermarché du sexe. Hein. On choisit ce qu'on veut, on les prend gros, maigres, grands, bruns, blonds, riches, pas riches. Donc le principe est assez extraordinaire, sur le papier, c'est assez extraordinaire. Et dès qu'il y a un dimanche pourri, j'étais sur mes sites de rencontre toute la journée. Parce que c'est facile aussi de mentir sur Internet. Hein. Parce qu'il faut savoir que c'est un peu le marché au détail au départ. La première fois, j'avais donné mon numéro de téléphone. Et après, le mec, il m'appelait et il se plaignait. Et donc, toutes mes soirées étaient ruinées par un mec qui m'appelait et qui se plaignait au téléphone comme si on était mariés depuis 15 ans. Donc, j'étais là, mais c'est quoi ce plan, quoi?
C'était la seule photo de l'été 99.
Wilfried Estève, donc on entend la bande sonore de cette petite œuvre multimédia, ce reportage traité sous la forme d'un diaporama sonore. À l'image, qu'est-ce qu'on voit dans ce reportage-là?
Alors à l'image, qu'est-ce qu'on voit? On voit des personnes qui ont posé avec des écrans d'ordinateur parce qu'il s'agissait de concrétiser une relation sur le net en fait. Donc on a réfléchi un petit peu. Le photographe Olivier Louche a fait des montages, un travail de studio avec des gens qui posent avec des écrans d'ordinateur.
Et quant à la bande son qu'on a entendue, qui est un reportage radio oui. En quelque sorte, ça a été réalisé comment?
En fait, ça a été mixé. On a pas mal enrobé. C'est Théodore Bourret qui en est l'auteur. On a enrobé pas mal de reportages, pas mal de témoignages en fait. L'interview est assez importante dans le POM en fait, le travail journalistique en soi.
Et il y a une forme qu'on retrouve beaucoup, c'est on voit les images et on entend la voix, alors c'est pas le cas dans celui-là, mais on entend la voix du photographe qui nous raconte
parfois
dans
aussi.
Quelles conditions il a pu travailler.
Oui, parfois, disons qu'on essaie d'être un petit peu créatif sous des formes un petit peu diverses. Mais ce qui est intéressant à travers le POM, c'est que j'ai fait le test de mettre le son sans voir l'image, ça marche. Les gens sont happés pendant 2 minutes et suivent l'histoire. Et après, l'inverse aussi marche aussi, c'est-à-dire sans le son, on met que de l'image, il y a un intérêt, on est captif, quoi.
Alors, il y a eu quelques questions sur le site de l'Atelier des médias qui concernent plus le domaine de la photographie en général, notamment cette question de Stéphane Gouet, qui est photographe de presse à Abidjan. Il s'interroge, lui, comment les photographes peuvent-ils contrôler la diffusion de leur travail sur le web? Wilfried Estève.
Alors là, ça va dépendre où va être placé le... C'est attenant à quoi? À la photographie en général?
La photo, oui. À le travail photo. Des photographes, comment ils peuvent en contrôler la diffusion?
C'est un petit peu... Tout dépend...
Est-ce qu'on peut le faire déjà?
Tout dépend où est-ce que les photos sont placées en fait. Ça peut être difficile comme ça peut être assez restrictif au niveau du site et il peut y avoir pas trop d'abus, mais en général, bon...
Si je comprends bien ce que Stéphane Gouet veut dire, il veut dire, moi je suis photographe, je fais des photos, si jamais je les mets en ligne, des gens peuvent s'en emparer, les utiliser sans que moi je touche aucune rémunération ou même qu'on me
cite. Ça dépend. Enfin, moi je vois, enfin, à l'agence Myope où je suis membre et diffusé, en fait, c'est un site de vente en ligne qui est un téléchargement, tout est contrôlé. De A à Z, les gens se loguent pour devenir client et après les téléchargements sont contrôlés. Donc là, il n'y a pas de problème. C'est pour ça, tout dépend le site. Après, s'il met des photos sur d'autres sites un petit peu communautaires, alors il y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est que il faut à tout prix ne pas cocher la case qui est créatif commun, qui donne accès à n'importe qui les photos. Il n'y a pas de droit d'auteur là. Donc ça, faut être très vigilant par rapport à ça. Mais ensuite, en contrôlant un minimum, la photographie sur le web est facilement pistable.
Très bien, merci Wilfried Estève. Avant qu'on se quitte, où est-ce qu'on peut voir et découvrir ce travail, ces petites œuvres multimédia, ces pommes? On se rend où pour les voir?
Moi je vais dire trois sites, l'agence Myope déjà. Ensuite,
alors ça s'écrit Myope
myop.fr. Ensuite il y a territoiredefiction.com avec un S à territoire et à fiction.
Alors territoire de fiction en un seul mot, au pluriel, point com.
Il y a le studio de création Hans Lucas qui en propose aussi. Et puis, et sur Facebook.
D'accord. Alors, on mettra tous ces liens à disposition sur le site de l'Atelier des médias. Merci Wilfried Estève. Je rappelle
que vous êtes
photographe, créateur notamment du collectif Freelance et initiateur de ce projet Territoire de Fiction.
Pourquoi aujourd'hui les modes de consommation de l'information ont évolué et comment la presse écrite doit s'adapter à ces nouveaux défis?
Atelier des médias.
Atelier@rfi.fr.
Le déluge de communication que nous avons a tendance à étouffer un peu l'information.
Je crois qu'on n'a jamais eu autant besoin des journalistes, on n'a jamais eu autant besoin d'informations et de médias qu'aujourd'hui.
Internet, c'est ça qui m'a rapproché du journalisme.
Vous êtes aujourd'hui de 1900 inscrits sur le site de l'Atelier des médias. Beaucoup de discussions en cours en ce moment sur le site. On compare notamment les techniques pour tenir un blog et on compare les plateformes. On en reparle dans trois quarts d'heure avec plusieurs membres de l'Atelier des médias dans la rubrique Mondo Blog. Ce sera avec Cédric Calandji.
RFI.
Alors, Philippe, tu pars tout de suite, là?
Eh ben, c'était parfait.
Wow.
Eh ben, voilà. Alors, comment est-ce qu'on prononce déjà votre nom?
Cai Chongguo.
Cai Chongguo.
Ouais, très bien, bravo.
Bon, allez.
Très bien, sinon voilà.
On va commencer.
http://atelier.rfi.fr. Philippe Couve.
L'atelier des... Alors, 3, 2, 1, 0. L'atelier des médias, ça continue tout de suite après les infos de la demi-direction Abidjan où le Nouchi, la langue de la rue, a fait irruption dans les médias.
Nouchi, présente.
Le Nouchi, c'est le créole ivoirien, c'est l'argot ivoirien, c'est un langage qui est parlé par les jeunes, c'est un langage de rue. Et puis, il faut dire qu'aussi, le Nouchi, c'est un peu l'ensemble de presque toutes les ethnies de Côte d'Ivoire. Il y a presque tous les dialectes là-dedans. C'est notre identité culturelle, ça nous identifie automatiquement. Aujourd'hui, si tu veux passer un message, que tu vas dans certaines communes, si tu ne t'exprimes pas en Nouchi, c'est pas évident que ton message passe. Aujourd'hui, les gens utilisent le Nouchi quand ils veulent, par exemple, approcher les enfants de la rue, ils veulent essayer au niveau des publicités, tout ça là, tu vois, et faire des messages de sensibilisation dans certaines communes. On utilise le Nouchi. Ouais, avoir accès à la jeunesse, quoi.
Médias du monde.
Un reportage de Norbert Navarro à écouter dans 4 minutes. Notre correspondant à Abidjan répondra ensuite aux questions que vous lui avez adressées sur notre site cette semaine. Restez à l'écoute. Yafoy, l'atelier des médias. Ça continue encore pendant une heure.